Les veilleurs de l'info.
Les jeunes éclairent l'info.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un plateau radio sur le thème de la liberté d'expression et d'information à l'heure d'Internet.
Pour nous en parler, nous avons Stéphane Iglesis, journaliste à Radio France, Emmanuel Riondé, journaliste pigiste travaillant notamment pour Mediapart, Mediacity et le Courrier de l'Atlas et animateur du collectif Chouf Tolosa, et Pierre Bizalion, dessinateur de presse. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Ils sont interviewés par Aminata, Carla et Marwa. C'est parti.
Mais d'abord, on écoute notre micro-trottoir sur la liberté d'expression, réalisé au lycée par les jeunes.
Bonjour, que pensez-vous de la liberté d'expression ?
Je pense que c'est une liberté fondamentale et essentielle à la Constitution française. Et au peuple, en général.
C'est quoi pour toi la liberté d'expression ?
La liberté d'expression, c'est la possibilité de dire tout ce que l'on pense, tout en respectant la liberté des autres.
La liberté d'expression en France, ben pour moi, elle varie. Certes, elle est présente, plus que dans d'autres pays, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points qui sont contradictoires. Des fois, il y a des choses qui vont être tolérées et d'autres choses par certaines personnes qui ne vont pas être tolérées, alors que c'est exactement pareil, la même chose qui a été dite. Voilà.
Un peu comprimé, genre on peut parler certaines choses, mais d'autres choses qui sont taboues, donc c'est un peu limité au niveau liberté d'expression.
Et du coup, que signifie la liberté d'expression ?
Pouvoir parler un peu de ce qu'on veut, être libre du coup, de dire ce qu'on pense, mais sans trop abuser quand même non plus, parce qu'il y a quand même des limites, mais sans se limiter non plus. C'est un peu contradictoire ce que je dis, je sais, mais bon.
Et bah du coup, pourquoi ?
De pouvoir parler tout sans qu'il y ait de tabou ou de jugement sur ce qu'on dit, parce que c'est surtout le jugement des gens qui sont autour qui dérangent.
Que pensez-vous de la liberté d'expression en France ?
Je pense que c'est un droit qu'on doit préserver, mais que c'est quelque chose qui est en danger à l'heure actuelle.
Que pensez-vous de la liberté d'expression en France ?
Je pense que par rapport à d'autres pays, je pense que cette liberté d'expression en France, elle a le don d'exister. Ceci dit, même quand on parle de liberté d'expression, on sait très bien que cette liberté d'expression reste encadrée. Mmh. Qu'on le veuille ou non, et que l'expression et la liberté de s'exprimer dépend aussi d'un cadre juridique dans lequel elle va s'inscrire. Ça reste toujours un sujet qui a toujours été un petit peu épineux, hein, mais qui a raison d'exister parce qu'il faut que ce soit un sujet épineux.
On a le droit de s'exprimer, mais dans le respect d'autrui.
Voilà. D'accord.
Merci.
Voilà.
Merci.
Voilà.
Au revoir.
Emmanuel Riondé, avez-vous toujours pu choisir vos sujets ?
C'est une question, ça dépend. Oui, moi, oui. Enfin, les sujets, on les propose. Moi, je suis pigiste, c'est-à-dire je travaille pour plusieurs rédactions. Donc, je propose des sujets. Des fois, on me dit oui, ça nous intéresse, vas-y. Des fois, on me dit non, on s'en fout, on ne le fait pas. Et puis, des fois, dans les rédactions, les sujets sont proposés à l'équipe de journalistes, puis certains les prennent, d'autres pas. Le refus des sujets, il peut venir aussi de la ligne éditoriale, de plein de choses en réalité. Mais moi, globalement, à titre personnel, en général, quand je propose des sujets, on me dit oui, et puis quand on me dit non, c'est pas forcément une censure. C'est que ça colle pas au moment, voilà.
Pierre Bizalio.
Oui.
Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
Une anecdote sur quoi ?
Sur votre métier.
Sur mon travail, d'anecdotes, j'en ai tellement qu'il n'y en a pas qui sort. Sur la liberté d'expression et la censure... Oui, je me souviens, il y a quelques années, je travaillais pour une des premières web. C'était un site qui passait des dessins humoristiques sur l'actualité, qui s'appelait Web Matin, qui était pionnier en la matière, puis c'était il y a une vingtaine d'années. Il m'avait demandé d'illustrer un sujet, et là je reviens à la première question. Souvent, je travaille sur commande, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui choisis les sujets. Et il m'avait demandé d'illustrer un sujet sur le massacre de Sabra et Shatila, qui avait été fait par Israël, et Bruxelles, c'est-à-dire la Belgique, avait décidé de porter ça devant la Cour de justice de La Haye, et donc avait attaqué Israël. Et moi, j'avais fait un dessin qui était complètement stupide à l'époque. Il faut dire aussi autre chose, c'est qu'à l'époque, Israël, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, était au pouvoir des religieux, qui étaient plutôt extrémistes. Donc ça veut dire que quand on attaquait le pouvoir politique, on attaquait aussi les religieux. Et donc, nous, dessinateurs, on est obligés de chercher des symboles. Alors, symbole religieux, comment dire, en Israël, c'est un rabbin. Symbole de la Belgique, mannequin peace. Et donc, j'ai fait ce dessin-là, c'est-à-dire un rabbin qui s'approche du mannequin peace en disant circoncision. Voilà. Donc, le dessin n'était pas terrible, hein, je l'avoue maintenant, aujourd'hui. Or, à la suite de ce dessin, il a été diffusé partout. Mais vraiment, il a eu une ampleur terrible. Et un jour, un copain dessinateur qui m'appelle et qui me dit « Tu sais que tu es dans un bouquin sur le retour de l'antisémitisme en France ?» Effectivement, j'ai feuilleté ce bouquin. Et parmi mes dessins, il y avait des dessins de Plantu, de Willem, qui travaillait à Libération, qui travaillait au Monde, et ainsi de suite. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'influence d'Internet. Il y a déjà 20 ans, le pouvoir d'Internet et de circulation d'un dessin. Voilà. Est-ce que l'anecdote est suffisante ?
Oui. Bon. Stéphane Iglesias, avez-vous déjà traité des sujets sensibles et quelles sont leurs conséquences ?
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par sujet sensible. Est-ce que c'est, par exemple, en 2005, parce que c'est des souvenirs qui me restent, le traitement des événements dans les banlieues, notamment ici, dans les trois quartiers du Mirail. Ça me reste en tête parce que j'étais conscient, en fait, d'avoir une responsabilité de ne pas transmettre une mauvaise image des quartiers en question, tout en devant transmettre le sentiment de révolte et d'abandon. Donc c'est très compliqué, c'est pas facile à la radio, parce que la radio est quelque chose de simplificateur, où on va à l'essentiel, où on doit choisir. Dans un reportage, tu peux pas mettre trois idées, mais une. Et donc dans ces cas-là, quand le paysage est compliqué, et à la radio aussi, c'est compliqué de le rendre audible aux auditeurs. Alors j'ai eu de la chance. Bon, évidemment, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire comme les moutons, tous les journalistes qui suivaient les policiers qui intervenaient chaque soir. Et puis, un soir, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe de femmes qui faisaient le tour du quartier et qui essayaient de pacifier les uns et les autres. Et j'avoue que je me suis attaché à ces femmes-là parce que je les ai trouvées très courageuses, ces mères. Ensuite, j'ai eu la chance, les mêmes femmes ont organisé une marche un samedi en partant du métro de Bagatelle et je les ai suivies. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance de tomber à ce moment-là sur des jeunes qui étaient révoltés. Et plutôt que de passer mon chemin, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a passé par la tête, en fait, j'ai décroché du cortège. Ils étaient dans un hall d'immeuble, j'aurais pu me faire casser la gueule. Hein. J'y suis allé en disant, écoutez, je sais que vous avez des choses à dire, et je vais vous écouter. Et j'ai pris le temps de les écouter, et j'ai fait un super reportage grâce à ça. Voilà, donc tu vois, c'est la situation compliquée, c'est ça. Mais la situation compliquée, ça peut être aussi, c'est un souvenir qui me reste en tête sur un fait divers. C'était pas dans cette région, moi j'arrive en fin de carrière, tu sais, c'était il y a 35 ans ou 30 ans en Saône-et-Loire, c'est du côté de Chalon-sur-Saône, en l'occurrence c'était à Louhans. Il y a une petite, enfin pas une petite fille, une fille de votre âge, sourde, qui descend du train, elle rentrait chez elle, et ce soir-là, en fait, le train qui passait en face dans l'autre sens était en retard. Donc elle suit les élèves, mais elle n'entend pas le train arriver et elle a été écrasée. Ça, c'est un souvenir terrible parce que d'abord, je déteste les faits divers. Enfin, je n'aime pas ça parce que ça oblige à aller faire parler des gens qui sont déjà dans la peine. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai mal fait mon métier. De mon point de vue, je ne l'ai pas trop mal fait, mais pour les gens qui me dirigeaient à Paris, parce que le père de cette jeune femme, il était sur le quai de la gare. Il était devant moi, il était à je sais pas, tu vois, comme là, à 10 mètres de moi, et il était accablé. Et je n'ai pas voulu aller le déranger pour qu'il parle à la radio, parce que je me suis dit que c'était indécent. Mais j'ai mal fait mon métier, il y a des gens, sûrement de RTL ou d'autres radios qui sont un peu plus branchés sur les faits divers, qui y seraient allés. Et le dilemme, parfois, c'est ça, c'est de savoir respecter la dignité de chacun, parfois au détriment du métier que nous faisons.
Emmanuel Riondé, vous êtes-vous déjà senti menacé à cause de votre métier ?
Alors, menacé de façon gravissime, non, mais au début, moi, de ma carrière, j'ai pas mal bougé à l'étranger, notamment en Afrique australe. Et je me suis baladé dans des pays à des périodes où les journalistes n'étaient pas les bienvenus. Voilà, donc par exemple, j'avais été notamment au Zimbabwe, c'était au début des années 2000, où le président de l'époque, Mugabe, virait les journalistes. Et moi, je me baladais, j'étais un jeune journaliste en freelance dans cette partie de l'Afrique, vraiment comme ça, un peu en taxi-brousse et tout ça. Vraiment en freelance, je bossais pour Africasie, j'avais fait des papiers pour Politis, pour Regard. J'allais voir dans ces capitales, des fois, des bons contacts, c'était les agences AFP. L'AFP, c'est l'agence France-Presse, qui est une grande agence de presse internationale et qui se caractérise notamment par un gros maillage à l'international. Il y a des agences de l'AFP un peu partout, notamment en Afrique. Et même si là, j'étais en Afrique australe et pas en Afrique occidentale, où il y en a encore plus, il y avait quand même des agences AFP. Et il y avait un poste à Harare, qui était la capitale du Zimbabwe, et il venait d'être viré. Mugabe virait tous les journalistes du Zimbabwe. Et il devait partir 3-4 semaines après le gars. Et voilà, je me rappelle de ça, où là, c'était un pays où j'étais rentré sans dire que j'étais journaliste, il ne fallait pas le dire, où lui m'avait accueilli en me disant que j'étais un con d'être venu parce qu'il valait mieux pas venir en ce moment-là. Donc, je n'ai pas été menacé parce que je n'ai jamais fait savoir que j'étais journaliste, mais j'ai quand même fait du journalisme et je l'ai fait de façon le plus discrètement possible, tout ça. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai été en Palestine aussi 2 ou 3 fois en reportage, c'est pareil. On pouvait être mal regardé quand ils voyaient qu'on était journaliste. Dans le même genre, alors là, c'était encore pire. Là, c'est au tout début où j'étais journaliste. J'étais en Algérie dans les années 90, qui était une période de guerre civile très dure. Et j'étais en plein milieu. Là, j'ai passé 3 semaines à l'hiver 95. Et alors là, pareil, c'était vraiment un moment où les journalistes là, étaient même des cibles, en vérité, notamment des groupes islamistes armés. Mais il y a eu aussi des doutes sur ce qu'a fait l'armée à l'époque. Mais bref, pareil, il fallait être discret. Et beaucoup plus récemment et localement, et voilà, il y a eu la séquence des Gilets jaunes à Toulouse, où moi, j'ai pas eu contrairement à certains collègues, j'ai pas été touché et tout ça. Mais j'ai un souvenir précis d'un jour, un des moments où dans la première période où c'était assez virulent les samedis après-midi à Toulouse, et où il y avait de la tension un peu partout, on était du côté de Décathlon, et je me rappelle avoir vu un policier qui m'a identifié comme journaliste, parce que j'avais mis le brassard presse, et qui m'a vu et qui m'a visé avec une grenade lacrymo dans les pieds. Hein. Il ne m'a pas tiré dessus avec un LBD. Mais là, on peut considérer que j'ai été identifié pour ce que j'étais, journaliste. Et explicitement, le mec m'a même montré du doigt un collègue et il voulait faire reculer la presse. Donc là, effectivement, même si je n'ai pas été touché, je n'ai fait qu'avoir ma petite ration hebdomadaire de gaz lacrymo, comme ça a été le cas pendant quelques mois, c'était de fait des gens qui visaient un journaliste. Donc oui, ça peut faire partie de notre métier d'être visé. Et encore, moi, je vous ai donné des expériences à l'étranger. Je n'ai pas été reporter de guerre. Si vous aviez ici quelqu'un qui a fait ça, oui, on peut être clairement visé et puis même des fois blessé, voire tué. Ça peut arriver.
Merci pour votre réponse.
Avec plaisir.
Stéphane Iglesias, quelle a été l'interview la plus stressante ou la plus difficile pour vous ?
En fait, c'est terrible de dire ça, mais aucune. Alors, je peux vous dire ça parce qu'aujourd'hui, j'ai quasiment 40 ans de métier. Et du coup, je suis habitué à réagir vite, à parler avec des interlocuteurs très différents. Et je ne les traite pas différemment. D'ailleurs, pour revenir, alors on n'a pas parlé encore de liberté de la presse, de pression, etc. Mais par exemple, un exercice très encadré dans les métiers que nous faisons, ce sont les voyages ministériels et les voyages présidentiels. Et moi, je me suis toujours refusé, en fait. J'essaie toujours de contourner. Je me suis fait mal voir, c'était il y a quelques années, quand Macron est venu à Toulouse, parce que le service de presse de l'Élysée disait « Vous n'avez pas le droit de faire ci ou de faire ça. » Et j'avais décidé que je m'en fichais. Et j'ai fini par le répondre, mais moi, je ne fais pas partie de la presse présidentielle. Je suis correspondant à Toulouse. Je suis ici sur le terrain que je connais, donc je fais ce que je veux. Ça ne leur a pas plu du tout. Et donc, 10 minutes après, j'étais exclu du périmètre où se baladait Macron. Mais il ne faut pas se laisser faire. La liberté, c'est ce qu'on accepte de faire ou de ne pas faire aussi. Et moi, je ne me fais pas dicter mes questions par des interlocuteurs. Je ne me mets pas de limites, sinon les limites de la décence et de l'honnêteté pour interviewer quelqu'un. Mais de difficultés, il n'y en a pas, en fait. C'est juste celles que vous pouvez imaginer, Mais il faut toujours se dire que l'interlocuteur qu'on a en face de soi finira par vous répondre. Et même s'il ne vous répond pas, c'est pas grave, c'est déjà une réponse. S'il refuse de répondre.
Ok, merci pour votre réponse.
Pierre Bizalion, selon vous, quelles sont les limites à la liberté d'expression ?
Je dirais que ce sont les limites qu'on se fixe soi-même. Il n'y a pas de limite. Il y a une limite judiciaire, parce qu'on peut tomber sous le coup de la loi à partir du moment où on fait du racisme, de l'apologie du racisme, de l'antisémitisme et de toute une série de choses qui sont contraires à la loi. Il y a aussi la diffamation. Il ne faut pas sombrer dans la diffamation. Bon, il se trouve que moi, en tant que dessinateur humoristique, des fois, je mets des hommes politiques dans des situations qui sont un peu scabreuses. Mais je suis couvert par le droit à la satire et le droit à la caricature. Donc, ce n'est pas forcément considéré comme de la diffamation. Donc, j'ai beaucoup plus de liberté que pourrait l'avoir quelqu'un qui fait de la presse écrite ou quelqu'un qui fait de la presse parlée, parce que je suis caricaturiste de nature. Donc, quand je disais les limites sont celles qu'on s'impose, moi, je ne m'impose aucune limite, sauf celle de la bienséance. Stéphane en parlait tout à l'heure. Ça doit être terrible d'être confronté à des gens qui sont dans la douleur. Moi, je ne suis pas du genre dessinateur à tirer sur une ambulance. C'est-à-dire que je ne vais pas en rajouter à partir du moment où des gens sont déjà enfoncés dans leurs problèmes. L'humour et la caricature est un formidable tremplin pour pouvoir justement s'affranchir de toutes les limites qu'on pourrait avoir.
D'accord, merci, je vous remercie.
Emmanuel Royondier, qu'est-ce qui a changé entre vos débuts et aujourd'hui ?
Alors, moi je suis d'une génération, alors j'ai un peu moins de temps de carrière que Stéphane, mais je ne suis pas non plus tout jeune. Et je pense que moi, je suis arrivé à la génération, j'ai vu le truc basculer avec le numérique. Hein, parce que c'est ça qui a changé, hein, la grosse révolution, c'est ça. Donc moi, mes tout premiers articles, je les ai écrits dans un petit journal qui s'appelle le Villefranchois, à Villefranche-du-Rouergue, qui fait partie du groupe La Dépêche. Un copain qui était journaliste là-bas, qui avait fait l'école de Toulouse, il m'a pris un stage. Donc là, c'était vraiment mes premiers papiers. Et je les ai tapés sur une machine à écrire, qui avait un petit écran de la taille d'une calculatrice digitale, là. Et après, on filait ça. Donc, on l'imprimait, on le filait à des dames qui avaient des gros écrans verts. Puis, ils le rentraient sur la maquette. Ça passait au marbre. Et en dessous, il y avait une imprimerie. Et c'était imprimé une fois par semaine. Donc, moi, j'ai vu ça. J'ai vu la fin de ça. Et on faisait les photos avec un appareil argentique. On développait les bobines, on tirait les photos. Et ça, j'ai appris à... Donc, ça, c'est des choses, pour vous, je pense, ça vous paraît très lointain, voire limite préhistorique, peut-être. Mais c'était pas si vieux. C'était en 95. Donc j'ai vu la fin de ça. Après, moi, j'ai bougé, je suis monté à Paris. Et quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai commencé à travailler pour des journaux, on commençait déjà à s'envoyer des infos par mail. Donc c'est ça qui a changé. Pour répondre à la question, c'est que moi, j'ai vu la fin d'un journalisme qui était très... des machines à écrire, ça sentait l'encre, et voilà. Et puis on est passé à quelque chose où on est quand même beaucoup plus assis devant des écrans. Beaucoup d'infos arrivent par l'écran. Ça a changé beaucoup. On y reviendra peut-être, je ne vais pas développer, mais c'est ça qui a changé, ouais.
Ce qui a changé en tant que dessinateur, effectivement, c'est tout ce qu'il raconte. Hein. Moi, au début, mes dessins, ils étaient imprimés sur des plombs. Ouais. Je suis pas sûr. Bon. Non, ce qui a changé, c'est la mentalité de ceux qui vous commandent des dessins. Puisque les temps de transmission, maintenant, sont pratiquement immédiats. C'est-à-dire, on fait un dessin, on l'envoie par Internet, c'est pratiquement immédiat. Par contre, le temps de conception du dessin, lui, il reste le même. C'est-à-dire qu'il faut trouver une idée, il faut dessiner, il faut mettre la couleur, et ainsi de suite. Maintenant, il faut scanner, voilà. Or, je me rends compte de plus en plus que les rédacteurs en chef, les journalistes, ils fonctionnent à flux tendu, hein, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que le temps de transmission est exactement le même que le temps de création. Ah bon, est-ce que tu peux me faire un dessin pour quand ? Ben pour tout de suite. Ah oui, ben non, mais ça prend un certain temps. Ça a changé.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je le constate aussi en radio, puisque quand j'ai commencé la radio, on avait, pour parler aussi des progrès techniques, etc., on avait des magnétophones à bande, qui avaient un grand avantage, c'est qu'avec des piles, ils duraient un mois. Là, quand j'arrive à faire 2 jours, je suis content. Ça veut dire que la batterie a tenu longtemps. Mais ça avait un avantage, c'est qu'il n'y avait pas encore Internet quand j'ai commencé. Donc, en fait, il y avait un temps qui était incompressible. On commandait un sujet le matin, on s'attendait à midi à ce que tu fasses éventuellement un papier au téléphone, mais on ne demandait pas d'avoir le reportage pour 1 heure après. Et en rentrant, on avait le temps de réfléchir dans la voiture de comment je vais organiser ce sujet. Un peu comme vous, quand vous faites une dissertation ou une rédaction, vous faites un plan. Et moi, j'avais le temps de le faire. Maintenant, c'est fini. On me téléphone, on me dit, voilà, il s'est passé tel truc au conseil régional, voilà, on veut un truc dans un quart d'heure. Alors je dis, bon, heureusement, France Info a quand même pris, il y a quelques années, la précaution de dire, depuis qu'il y avait eu l'affaire Martin Bouygues, où l'AFP avait annoncé un jour que le patron de Bouygues Télécom était mort, or en fait, c'était un homonyme, c'était pas lui. Donc, depuis ce jour-là, ils se sont dit, bon, on va attendre un peu, et on va revérifier plutôt 2 fois qu'une nos informations. Ce qui veut dire que parfois, par rapport à la concurrence, on arrive après, parce qu'on a une agence interne qui s'appelle l'agence France Info, qui travaille aussi pour France Télévisions, qui revérifie toutes les informations. Donc tout ça pour vous dire que le temps, souvent, on ne l'a plus aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, on nous demande de travailler 3 fois plus vite. Et c'est parfois au détriment de la qualité de l'information. C'est même souvent au détriment de la qualité de l'information. Donc il faut avoir aussi, pareil, on revient finalement sur la liberté dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, ça je ne peux pas avant telle heure, parce que je dois vérifier l'information, je dois avoir le temps d'interviewer calmement les gens, et je ne peux pas te le faire. Mais ça, les jeunes journalistes, je pense, parfois, ne se prennent pas cette possibilité, parce que, comme le disait Emmanuel aussi tout à l'heure, souvent, ils sont dans des contrats précaires et ne sont pas salariés. Donc, on peut leur dire, mais oui, mais si tu n'obéis pas, on ne te reprendra pas la prochaine fois pour travailler. Il y a aussi cet aspect-là qui est très préoccupant dans notre profession, avec de plus en plus de contrats précaires et de moins en moins de salariés.
Ben merci à vous aussi pour votre réponse.
C'est l'heure des remerciements. Merci à tous nos invités. Emmanuel Ridéan, journaliste pigiste, travaillant pour Mediapart, Mediacité et le courrier de l'Atlas. Pierre Bisonlier, dessinateur de presse, Stéphane Iglesis, journaliste à Radio France.
Merci également à toute la classe de première bac pro, vente du lycée professionnel du Mirail, et à nos professeurs, Mesdames Lacaze, Le Quintrec et Pouillou.
Enfin, merci à Alexandra de Médias Communs et Philippe de la Ligue de l'Enseignement qui ont animé ce projet, sans oublier la DRAC Occitanie qui a financé les veilleurs de l'info. Vous pouvez réécouter notre émission sur Ondes Courtes, la web radio du Libre.
Merci, bravo à tous.
Merci.
De rien.
Salut à toi, cher citoyen.
Tu veux apprendre les valeurs républicaines tout en t'amusant ?
Alors procure-toi le jeu République XL, ce jeu de société développé par l'École des droits de l'homme et conçu à Toulouse et éco-responsable.
Est disponible sur le site de l'École des droits de l'homme et en précommande au lycée professionnel du Mirail. Alors citoyen, es-tu prêt à relever le défi ?
Cette émission a été réalisée par l'association Médias Communs Occitanie en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement 31 dans le cadre du projet Les Veilleurs de l'Info, à un atelier en éducation aux médias que nous avons réalisé au lycée professionnel du Mirail de janvier à mars 2021. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Le projet Les Veilleurs de l'Info est soutenu par la DRAC Occitanie.